Olivier, voilà, c'est un honneur de t'accueillir ici, donc pour nous emmener dans un beau voyage. Olivier, on va repartir sur la période de 2020. S'il y en a qui s'en rappellent, voilà, il y a eu une période de rupture où en fait le monde entier s'était arrêté. Et Olivier s'est installé, il était dans sa petite commune de La Chapelle-Aulis. Cette petite commune, en fait, qui est sur les derniers promontoires du massif armoricain. Donc, on est près de la forêt de Mervent, de Fontenay-le-Comte, du Marais Poitevin. Et donc, il a un lieu absolument extraordinaire. Il a cet observatoire. Et là, il s'est posé. Il s'est posé là, avec sa famille. Et puis, bah, il a travaillé, en fait. Il a travaillé pour nous offrir ce que vous allez voir ce matin. J'en dis pas plus. Je te laisse la parole, Olivier.
Merci beaucoup, Benoît. Écoutez, bonjour, merci beaucoup d'être présent. Alors, c'est pour moi toujours une très très grande émotion d'être dans cette salle du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. C'est ici même qu'en 1984, j'ai donné ma première conférence publique. Voilà, j'avais 17 ans, je me souviens que j'avais un certain trac à l'époque. C'est ici également, dans cette salle, lorsque j'étais enfant, je pense dès l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à découvrir la science. J'ai été un des tout premiers membres de la Bibliothèque des jeunes, voilà, qui avait été créée par Madame Baudouin-Baudin, que je salue ici en sa mémoire, et puis membre de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France. Et puis c'est ici que ma vocation, voilà, du voyage scientifique va naître, notamment par les conférences de Joël Laudet. J'ai vraiment le grand plaisir d'avoir mon papa spirituel qui a fait le voyage d'Espagne jusqu'ici pour venir assister au film. Et donc voilà, c'est pour moi un très grand moment de pouvoir projeter pour la première fois ce film. C'est une première ce soir. Autant vous dire, je suis un peu tendu tout de même. Parce que, en plus, si cette salle a pour moi une résonance affective énorme, elle a aussi une résonance du son. Et on sait que c'est une salle qui est chargée d'histoire, qui est pour moi très très précieuse, mais qui est également pas facile, voilà, à gérer au niveau du son. Donc on n'est peut-être pas dans les meilleures conditions techniques pour assister à ce film. Mais bon, j'espère, voilà, que vous passerez néanmoins un agréable moment. Le film dure 1h10. Normalement, Benoît et l'équipe de Nomades Nature m'avaient demandé la version courte. J'avais dit, il y aura une version 52 minutes. Et pour tout vous dire, on a terminé le montage avec mon musicien Romuald, qui est ici il y a seulement quelques jours. Et à un moment donné, on n'était plus capable de couper. Et je me suis dit, allez, je vous montre la vraie version, 1h10. On aura très peu de temps de débat. Voilà, 10 minutes, 15 minutes ensuite pour en parler. Et je vous souhaite un bon voyage jusqu'à près de 8 milliards d'années de lumière de la Terre. On a limité à peu près les dégâts au niveau du son. Voilà. Connaissant le film et l'ayant vu dans de bonnes conditions, on était loin des ambiances sonores, hein. Volontairement, on a fait une sortie un petit peu plus basse, voilà, pour être certain que voilà, ça passe. Mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'ambiances, voilà, les connaissants qui passaient difficilement. Bon. Mais j'espère qu'on aura l'occasion à Nantes de pouvoir le reprojeter en retravaillant peut-être la présentation du son. J'espère que ça vous a plu. Vous l'avez compris, ce film s'est fait dans des conditions très très particulières, puisque tout ce que vous avez vu a été intégralement réalisé depuis le jardin. Donc il n'y a aucune image du télescope spatial Hubble, de James Webb. Tout a été fait dans le jardin. Donc parfois il y a plusieurs caméras, enfin voilà. Bon, mes enfants sont de bons acteurs, Voilà, ils ne sont pas trop, trop mauvais. Voilà, effectivement. Bon, il y avait plusieurs reprises, hein, quelquefois. Hein. Il y a eu des énervements avec les enfants. Voilà, mais bon, ils sont quand même assez bons. Ils deviennent de mieux en mieux, d'ailleurs. Hein, c'est... Oui, voilà. Mais ça ne se voit pas trop. Hein. C'est vrai que c'est vraiment le drapeau qui... On le voit évoluer au fur et à mesure. Et c'est Michel Serres, le grand philosophe des sciences, avait fait un très beau texte justement sur la notion du temps. Qu'est-ce que donc le temps? Et quand on regarde une montre, comme disait Michel Serres, ça ne dit pas du temps, ça dit de l'espace. Lorsqu'on dit qu'il est bientôt l'heure d'arrêter la séance, c'est du spatial que l'on dit. C'est la place de la Terre à un endroit dans l'espace. Mais si on regarde la montre, qu'on la voit usée, une rayure, le cuir qui est abîmé, le bracelet, ça c'est le temps que l'on voit qui est imprimé. Eh bien, le drapeau nous l'a prouvé, effectivement. Ah, très, très bonne question. Alors, si j'ai bien compris, l'éclipse solaire que l'on a vue était-elle visible depuis toute la France? Alors, réponse oui. Il s'agissait d'une toute petite éclipse partielle de soleil. Donc, on a juste vu un bout du soleil qui a été éclipsé, comme l'a dit Yuna, ma fille. On a l'impression que c'était un gâteau qui était croqué. Et effectivement, c'est... Exactement ça, et le bout du soleil croqué, c'est la Lune. Alors, si on avait été, si j'ai bonne mémoire, complètement au sud de la France, on aurait vu un petit peu moins de Lune, le gâteau était moins mangé. Puis si on allait vers le nord de la France, le soleil était un petit peu plus mangé. Donc il y avait une différence selon l'endroit de la France où l'on se trouvait. Une éclipse partielle de soleil est visible sur une grande région, voilà, sur... pratiquement une grande partie de la surface de la Terre qui est tournée vers le Soleil. Par contre, et c'est là peut-être que tu, dans ta question, tu pensais à quelque chose d'autre, ce sont les éclipses totales de Soleil. Et là, les éclipses totales sont très particulières, parce que vous avez remarqué que je vous ai dit que depuis mon observatoire du sud-est de la Vendée, il me faudra attendre le 4 juin 2160. Alors à Nantes, on a une chance extraordinaire, et je propose d'ailleurs que la prochaine édition de Nomade Nature soit sur ce thème, c'est qu'on aura une éclipse totale de soleil beaucoup plus tôt, qui sera le 3 septembre 2081. Je te propose, Benoît, là qui est vraiment le thème du voyage, sans bouger, depuis Nantes. Pour être honnête, il faudra mieux aller à Rennes ou à Saint-Malo pour mieux la voir. Mais enfin, à Nantes, elle sera tout juste totale. Et alors là, ça permet de bien comprendre qu'une éclipse totale de soleil, elle est totale parce qu'on est pile dans le passage de l'ombre de la Lune. Et là par contre... il faut être à des endroits très précis du globe terrestre. C'est la raison pour laquelle ce voyage que nous devions faire en Amérique du Sud de 6 mois pour aller observer l'éclipse du 14 décembre 2020 dans la Terre de Feu ou le sud du Chili, eh bien, nous obligeait normalement à faire ce voyage incroyable. Parce que si on veut voir une éclipse, eh bien là, il faut voyager ou alors il faut vraiment être très très patient. Voilà, faut attendre 2081 au minimum si vous ne voulez pas voyager. Et là, le voyage est nécessaire. Alors on peut dire ça désormais puisque le pays de la Châtaigneraie, que connaît très bien Benoît parce qu'il est issu également du pays de la Châtaigneraie, donc chose incroyable là aussi, ce petit village de la Chapelle-aux-Lys, 266 habitants, bientôt 269 parce que nous allons gagner 3 habitants nouveaux qui vont arriver bientôt, est le plus petit village au monde à posséder un planétarium. Dernier cri de technologie. J'ai vérifié. Il y a entre 4000 et 5000 planétariums au monde. Pourquoi cette petite marge d'incertitude qui est liée au travail fabuleux de mon collègue et ami Daniel Odéon du Planétarium de Nantes, qui est le grand spécialiste de l'inventaire des planétariums dans le monde? Alors, il y a une petite incertitude d'un millier d'habitants, c'est la Chine. On ne sait jamais trop ce qu'ils font là-bas, voilà. Donc, on ne sait pas trop combien de planétariums il dit. Mais comme a dit Daniel, de toute façon, il n'y a pas de commune de 260 habitants en Chine. Donc, il n'y a aucun risque, tu peux y aller. Allez, la Chapelle-aux-Lys, plus petit village au monde à posséder un planétarium. Donc oui, on est un petit peu le centre de l'univers. Ouais. Vous pouvez y aller, effectivement, puisque c'est un observatoire ouvert au public, sur réservation, bien évidemment. Et donc, nous organisons avec mon épouse Maggie des stages de découverte, des soirées d'observation. Donc, il suffit de taper mon nom, vous allez arriver sur mon site. Et puis là, vous allez voir tout ce que je propose en découverte de l'astronomie. J'ai deux offres. Soit vous venez avec moi au Kenya pour aller découvrir l'astronomie. Alors, il reste de la place pour le safari astro du début juin. Celui d'avril est complet, je suis désolé. Ou sinon, vous venez dans notre observatoire en sud-est Vendée. Là, le taux carbone sera moins important. Voilà, ce sera peut-être mieux. Ah, alors ça, c'est une petite coquetterie, c'est mon petit côté aristocrate que je ne suis pas du tout. Hein. Voilà. Mais un jour, c'était sur France Culture, il y avait un membre de l'Académie de l'Académie de France qui disait que théoriquement, c'était mieux de dire année de lumière, mais bon, force est de constater que théoriquement, on dit année lumière. Or, je trouvais qu'année de lumière, la petite particule, ça, voilà. Et puis, alors finalement, comme je suis le seul à le dire, ça me permet de me distinguer. Voilà, bon, c'est une coquetterie. Voilà. Non, alors voilà, merci effectivement de le préciser. Alors je ne le dis qu'à un seul moment, voilà, il y aurait tellement de choses à dire, bien évidemment. C'est lorsque je montre la nébuleuse d'Orion, donc quand je montre quasiment la première nébuleuse, on voit tout d'abord, j'ai travaillé l'image de telle manière que ce que vous avez vu au départ de la nébuleuse d'Orion, de cette maman étoile, c'est à peu près la vision que l'on a dans un bon télescope d'amateur, dans le mien en particulier. Donc l'œil ne peut pas percevoir déjà les couleurs. Nous observons la nuit avec ce qu'on appelle nos bâtonnets, qui voient plutôt dans une lumière bleu-verdâtre, mais on ne perçoit absolument pas ces couleurs, qui peut être d'ailleurs un élément de déception quelquefois pour quelqu'un qui n'a jamais regardé dans un télescope et qui s'attend à voir les images de Hubble et qui est très déçu de voir que des formes floues, grisâtres, légèrement verdâtres ou bleuâtres. Et c'est la prise de vue astrophotographique qui permet, en accumulant les photons de lumière, de révéler non seulement l'objet avec beaucoup plus de détails, et puis surtout la couleur, voilà, qui va apparaître. Alors personnellement, je suis un grand amateur de l'observation visuelle directe. Je trouve que de voir en vrai, de se toucher, de se dire « Waouh, ce que je suis en train d'observer est à 50, 100 millions d'années de lumière et je le vois réellement de mes propres yeux. » Puis il y a plein de petites astuces que je donne à mes stagiaires qui viennent découvrir dans mon observatoire. Mais c'est vrai que c'est la photo qui va permettre de révéler cela. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que nous vivons une période fantastique, c'est que mon télescope est un vieux télescope aujourd'hui. J'ai d'ailleurs tenu à rendre hommage dans le générique à Serge Desconiout, qui a été le concepteur de mon télescope. Personnage fantastique, désormais en retraite, et qui est à l'origine de la construction en grande partie de mon télescope. Mais c'est un télescope qui date des années 1990. L'optique, je l'avais fait faire sur mesure en 1986-87 par un opticien fantastique. Et c'est un peu un télescope à la grand-papa, dans le sens où il ne pointe pas automatiquement. Vous m'avez vu avec mes atlas, je suis avec ma petite calculatrice programmable, je calcule le temps sidéral, je pointe à la main mon instrument qui ensuite est motorisé pour faire le suivi, etc. Mais chose incroyable, c'est que les techniques de prise de vue et surtout de développement numérique permettent de révéler des prises de vue qui étaient inimaginables il y a seulement 10 ans, 20 ans, on ne parle pas en plus de 30 ans. Les images qu'aujourd'hui je réalise depuis mon observatoire sont d'une qualité comparable à ce que faisait le télescope de 5 mètres du Mont Palomar, le plus grand télescope du monde dans les années 1970, qui lui-même, bien entendu, a évolué au niveau du développement numérique aussi. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que toutes les images que vous avez vues, alors j'ai des collègues qui font beaucoup mieux que moi, en astrophotographie, ce que je fais n'a rien d'extraordinaire, mais néanmoins tout ce que vous avez vu est réalisé par mes propres moyens qui ne sont pas, j'ai une très belle instrumentation, mais qui n'est pas le top du top, qui n'est pas le plus moderne, et qui n'a rien de fantastique, quoi. Mais vous avez raison de dire que ce que l'on voit visuellement n'a rien à voir effectivement à la réalité des images que vous avez vues ici. Ah, merci. Louis, la suite. Alors, ce film a été réalisé dans un contexte très particulier. Je vais être très rapide. Là, c'est la dernière. Non, c'est effectivement un peu la conclusion. C'est que ce film, voilà, lorsqu'on a acté le fait que nous ne partions pas en voyage, en sachant que j'ai fait une ellipse dans le début du film, pour ceux qui connaissent mon histoire, c'est qu'il y a eu deux échecs successifs pour notre voyage en Amérique du Sud, puisque le 4x4 noir que vous avez vu est par actuellement 4500 mètres de profondeur dans le fond de l'océan Atlantique suite au naufrage du Grande America lorsqu'on a transporté notre véhicule jusqu'en Amérique du Sud. Le bateau a coulé, c'est complètement du Jules Verne, voilà, et comme dit Jules Verne, un naufrage vous laisse d'impérissables impressions. Donc on a réussi à se reconstituer un nouveau véhicule avec un nouveau projet de voyage de 6 mois, et là, paf, pandémie mondiale. Voilà, bon là, on s'est dit, on arrête les dégâts. Et quand j'ai acté l'idée, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire un voyage sans bouger. Nah. Et quand j'ai dit à la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie, que vous avez vu qu'ils sont très présents ici, qui étaient nos partenaires financiers dans un gros projet pédagogique, vous l'avez compris, avec des centaines d'élèves des écoles primaires du pays de la Châtaigneraie, ben, j'aurais dit, ben voilà, on arrête les frais, on ne part pas, mais par contre je vais faire ça, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me suivent, et là les politiques du pays de la Châtaigneraie m'ont dit, mais c'est encore mieux, ça nous plaît beaucoup, non, mais l'argent qu'on allait mettre pour ce voyage en Amérique du Sud, ben on le met dans la coproduction du film, et c'est ce qui a permis de financer le film. Voilà. Donc je dirais que les seuls acteurs économiques avec qui j'ai des comptes à rendre, c'est le pays de la Châtaigneraie. Il n'y a pas eu l'avant-première finalement, ce n'est pas l'avant-première officielle, hein, parce que je ne veux quand même pas les blesser. Bon, ils savent que le film est projeté ici, mais chose incroyable, ils ne l'ont pas vu en premier. Voilà. Mais c'est le concours de circonstances. Voilà. Donc maintenant, bah, dès demain, mon travail maintenant, ça va être de pouvoir vendre le film, voilà, et de faire en sorte qu'il soit le mieux visible possible, voilà, le plus diffusé possible, donc ça va être mon travail, voilà. Mais comme je fais tout, la prise de vue, les prises de son, le montage, la voix off, sauf la musique, hein. Grand merci à Romald, je ne sais pas où il est, voilà, qui a fait tout le travail incroyable de mixage audio, voilà, dont malheureusement, vous n'avez pas eu toutes les subtilités réelles que je connais. Je suis vraiment déçu qu'on ne l'ait pas eu, mais tout le travail reste à faire. Et là, je regarde Benoît qui me regarde avec un air.
Non, mais merci beaucoup.